Deutsche Welle. Droits et libertés.
Deuxième et dernier volet de ce magazine consacré au Forum mondial des médias qui s'est tenu début juillet ici même à Bonn. De nombreux acteurs du secteur de l'information, des journalistes, des citoyens engagés du monde entier se sont retrouvés pour parler mobilisation citoyenne, des nouveaux médias et des chances qu'ils représentent du point de vue de la société civile, mais aussi des risques et des dérives qui peuvent être liés à Internet. C'est Sandrine Blanchard au micro. Bonjour à tous. Le département Afrique de la Deutsche Welle a profité du Forum mondial des médias pour organiser une table ronde sur l'engagement politique en Afrique subsaharienne. Le thème de la rencontre était « Après les printemps arabes, la révolution est-elle repoussée ?» Et pour en parler autour de la table, notre confrère Eric Topona, le blogueur et cybermilitant éthiopien Echete Bekele Tekle, et un Angolais, Raphaël Marques de Moraes, qui a créé Maca Angola. C'est un site internet contre la corruption. Également présente à la discussion, une Zimbabwéenne, Jenny Williams. Elle est engagée dans la défense des droits des femmes. Leur point commun, tous ont eu maille à partir avec les autorités de leur pays d'origine. En Éthiopie, en mai 2011, des jeunes ont tenté de se regrouper pour protester contre le gouvernement, alors dirigé par Meles Zenawi. Inspirés par les mouvements de révolte dans les pays arabes, ces militants dénonçaient les violations systématiques des droits de l'homme dans leur pays. C'est ce qu'explique Echete Bekele Tekle.
Le gouvernement contrôle tout. Il y a de la corruption, une gestion catastrophique de l'économie. Le pouvoir et les richesses ne sont pas équitablement partagés. Le changement ne peut venir que de la population, mais je ne sais pas comment y arriver.
Son groupe s'est appelé Quartier numéro 9, en référence aux 8 quartiers officiels de la prison d'Addis Abeba. Et le quartier numéro 9, eh bien, c'est la ville, l'extérieur, où les membres du groupe se sentaient tout aussi peu libres que derrière les barreaux. Les mouvements de protestation ont été étouffés dans l'œuf avant que les Éthiopiens ne descendent massivement dans la rue. Le gouvernement a renforcé la censure des médias, verrouillé Internet. Pas question pour le pouvoir de risquer un soulèvement populaire comme en Égypte. Une répression que l'Angolais Raphaël Marques de Moraes connaît bien. À Luanda, les forces de sécurité ont tué récemment plusieurs manifestants qui protestaient contre le président José Eduardo dos Santos. Et pour le blogueur Raphaël Marques de Moraes, il est urgent que les citoyens fassent corps contre les malversations et la violence étatique des régimes autoritaires.
Dictators. Network.
Les dictateurs fonctionnent en réseau, ils s'entraident. C'est pour ça que l'Angola achète des diamants au Zimbabwe pour soutenir Mugabe.
Et le Zimbabwe, c'est justement le pays d'origine de Jenny Williams. Cette militante des droits de l'homme le constate.
Les gens descendent dans la rue parce que les élections n'amènent plus de démocratie. J'avais 18 ans en 1980 quand le Zimbabwe a accédé à son indépendance. Depuis, je n'ai pas connu la démocratie, pourtant j'ai assisté à de nombreuses élections.
Depuis 1980, le personnage central de l'État zimbabwéen, c'est Robert Mugabe. Ce nonagénaire a été réélu en 2013 à la présidence du pays. Jenny Williams a fondé, elle, une ONG, WOSA, qui milite pour les droits des femmes. Elle espère faire entendre la voix de la société civile face à l'État autoritaire. Mais son objectif n'est pas de faire la révolution et encore moins de prendre le pouvoir. Elle se considère simplement comme une citoyenne consciente de ses droits.
Je veux simplement que mes enfants puissent aller à l'école, qu'ils trouvent du travail. Il est de mon devoir d'exiger cela de la part des politiciens. Nous devons occuper cet espace de revendication. Cela ne veut pas dire que nous devons tous être des politiques. Je ne veux pas devenir présidente du Zimbabwe.
Son esprit frondeur a valu à Jenny Williams d'être arrêtée une cinquantaine de fois déjà. En 2012, elle a obtenu pour son engagement le prix du fonds Ginetta Sagan, décerné par Amnesty International.
Thank you.
Au gré des couloirs et en marge des ateliers de travail et de discussion du Forum mondial des médias, nous avons croisé des journalistes togolais qui avaient fait le déplacement. Et apparemment, le Forum leur a ouvert de nouveaux horizons. Des francophones?
Oui.
Comment ça va?
Ça
se passe bien?
Ouais. Moi, je m'appelle Sam Djobo, je suis journaliste, directeur du journal L'Éveil de la Nation, un hebdomadaire qui paraît à Lomé au Togo.
Et vous?
Dominique Aliziou, directeur de publication du journal Chronique de la Semaine, un hebdo aussi qui paraît chaque jeudi à Lomé.
Et au contact des journalistes d'autres pays que vous avez pu rencontrer ou entendre ici, à votre avis maintenant, quelle est la caractéristique du travail de journaliste au Togo?
Il y a beaucoup de choses que nous faisions et qui sont identiques à ce que les autres font. Mais nous avons plus remarqué que pour les journalistes qui sont venus des pays un peu plus développés que notre pays, à côté des supports papier, il y a aussi des sites internet. Et donc, c'est une nouvelle perspective que nous allons essayer d'intégrer dans nos comportements quand nous allons repartir chez nous.
Vous aussi, ça vous a convaincu de l'utilité de miser aussi sur Internet comme voie de diffusion?
Évidemment, l'Internet aujourd'hui s'avère comme un élément indispensable. Déjà, moi, je l'utilisais. Bon, moi, à chaque fois que je boucle, je suis toujours connecté. Je suis sur les réseaux sociaux, Facebook et autres, là, à la recherche des informations, des compléments d'informations par rapport à ce que j'ai. Donc l'Internet déjà était dans nos habitudes seulement.
Mais on ne peut pas comparer la connexion que nous avons à Lomé à celle qu'il y a ici. C'est-à-dire le débit ici est beaucoup plus fort que celui que nous avons à Lomé. Et du coup, comme notre débit n'est pas tellement un haut débit, pour télécharger des données, des documents, ça prend naturellement assez de temps. Et des efforts sont en train d'être faits au niveau du gouvernement pour qu'on puisse remédier à cela très rapidement.
Mais est-ce que vous pensez que d'ici peu, dans l'ensemble du Togo, pas seulement à Lomé ou dans les grandes villes, mais jusque dans des villages du nord par exemple, ou des milieux ruraux, on pourra se connecter par le biais soit d'un ordinateur, soit d'un téléphone portable? Est-ce que c'est quelque chose qui est à la portée bientôt du Togo, ou est-ce que ça va durer encore un petit peu selon vous?
Bon, vous avez bien fait de dire il faut un ordinateur ou il faut un téléphone portable. Si au village, le gars n'a pas d'ordinateur ni de téléphone portable.
Pour l'électricité aussi.
Oui, de l'électricité. Même s'il y a la connexion, il ne peut pas se connecter.
Mais est-ce que Internet, c'est vraiment une priorité dans un pays comme le Togo où il y a des problèmes d'éducation, par exemple, d'alphabétisation, d'accès aux soins de santé rudimentaires? Est-ce que ce n'est pas un luxe, entre guillemets, qui n'est pas forcément la priorité de toute la population?
Alors, le Internet, il faut être honnête, n'est pas une priorité dans les pays en voie de développement. Parce qu'il y a d'autres priorités. Il faut que les gouvernants trouvent une solution pour que les populations vivent décemment. Et les populations, surtout le bas peuple, ne vivent pas que de la connexion Internet. Et en revanche, dans des couches les plus favorisées, où les gens qui font d'énormes affaires, les journalistes et autres, on a extrêmement besoin de la connexion Internet. Quand vous prenez le taux d'analphabétisation, c'est tellement élevé. Et dans les villages, mon confrère le disait, ici, il y a certaines localités qui ne sont pas couvertes par le réseau électrique. Il y a des gens, c'est pas tout le monde qui a un téléphone portable, c'est pas tout le monde qui a droit à un ordinateur. Donc, la priorité d'abord, c'est que les gens vivent décemment. Et après, on pourra voir pour la connexion Internet.
Et une dernière question, pour vous qui êtes journaliste ou travaillez avec des journalistes, dirigez des organes de presse, est-ce que ça ne vous fait pas peur aussi l'émergence de ces médias-là où n'importe qui peut poster n'importe quelle information, à condition d'être équipé bien sûr, depuis son salon et puis appeler à la mobilisation ou diffuser éventuellement de fausses informations? Est-ce que ça ne pose pas un problème à la profession, aux journalistes professionnels?
Évidemment, la menace est là. Les gens posent ce qu'ils veulent parfois. Par exemple, je me rappelle, avant que je n'aille chercher mon visa Schengen à l'Allemagne, je lis sur Internet que désormais, avec un passeport togolais, on peut aller dans l'espace Schengen. Bon, quand j'ai lu ça, j'ai rigolé puisque je savais que c'était faux. Or, si vous ne savez pas consommer ce que les gens envoient sur les sites, là, vous risquez d'être un véritable abruti. C'est-à-dire que, et il se fait aussi que certains de nos confrères reproduisent ces informations sans même vérifier. Et généralement, ça leur cause des problèmes parce que quand on leur demande « mais vous avez trouvé où ?», ils disent « ah, sur le site Internet ». Ben, Internet, ce n'est pas une source. Donc, la menace est là. C'est vrai que ça crée une situation, mais quand tu es un professionnel, tu es censé savoir l'information réelle, vraie. D'ailleurs, quand tu as l'information sur le site, tu peux également la vérifier.
C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur notre site internet www.de/français-français comme d'habitude. Vous pouvez réécouter en vous rendant dans la rubrique médiathèque ou podcaster ce magazine dans la rubrique nos podcasts tout en bas de la page d'accueil. Vous pouvez également nous écrire en nous envoyant un courriel à français@dw.de. Merci encore de votre fidélité et à la semaine prochaine.